pour que la paix ne soit pas qu'une dérive. Jeudi, nous avons maintenant notre invité qui est en ligne qui va répondre à toutes les questions. Il s'appelle Hakim Kibaya. Il est assistant logistique au chef de bureau FAO qui s'en a mis point focal de la délégation. Il est là pour nous dire concrètement qu'est-ce qui sera fait pour toutes ces personnes qui sont aujourd'hui totalement abandonnées à leur triste sort à cause du problème des inondations. Monsieur Hakim Kibaya, bonjour.
Bonjour.
Nous aimerions savoir d'abord, pour commencer, quel est le nombre de personnes qui se retrouvent dans cette situation abandonnée à cause des inondations? Vous avez une idée sur le nombre de personnes?
Oui, j'ai une idée précise sur le nombre parce que j'ai fait partie de la mission d'évaluation. Donc nous avons pour le territoire du Sangui au total 20 863 personnes. Tandis que pour les territoires de Bassoko, nous avons 2992 personnes qui sont concernées directement par cette question d'inondation.
Ce qui fait un total de plus ou moins
2425.
C'est beaucoup, hein. Alors aujourd'hui, nous apprenons que ces gens vivent vraiment dans une situation déplorable, hein. Malgré l'aide leur apportée par OCHA, ça ne suffit pas. Alors, qu'est-ce que, à votre niveau, vous comptez encore faire pour toutes ces personnes totalement démunies?
Oui, au retour de la mission, nous avons fait un rapport qui donnait très exactement l'état de besoin des populations qui sont sinistrées dans ces zones. Et sous la coordination de OCHA, nous sommes en train de faire un plaidoyer auprès de différents bailleurs, de nos agences et d'autres bienfaiteurs locaux pour que très rapidement une assistance humanitaire soit envisagée pour les populations qui sont dans ces zones-là.
Mais on craint qu'il y ait des épidémies, hein, parce que bon nombre vivent entassés comme des bêtes. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec José de Charpeminga qui était avec vous, je crois, dans ces territoires. Alors, est-ce que rien n'est fait aujourd'hui pour prendre en charge toutes ces personnes? Parce que déjà, on signale des cas de diarrhée de ce côté-là.
Oui, tout à fait. C'est prévisible, hein, dans ces genres de situations. Après les inondations, il y a toujours des épidémies. Bon, toute la population, tous les intervenants sont unanimes que pour le moment, peut-être que c'est encore à l'état latent, mais très prochainement, on va déjà commencer à dénombrer des cas d'épidémies. C'est pour ça que nous ne sommes pas allés le main vide. L'équipe humanitaire était accompagnée d'une petite barge qui a transporté 10 tonnes, parmi lesquelles il y avait une petite partie de kits médicaux qu'on a pu déposer dans les endroits qu'on a trouvé prioritaires par rapport aux événements.
Est-ce que vous avez une idée de ce qui s'est réellement passé pour que toutes ces personnes se retrouvent totalement démunies? Parce que bon, c'est vrai qu'il pleut souvent pendant cette période de l'année, mais arriver à ce que ces gens soient totalement inondés, leurs maisons dévastées, qu'est-ce qui s'est concrètement passé?
Oui, il y a eu les pluies, c'est juste, mais la situation, nous savons que la situation est cyclique, donc ça arrive souvent à cette période ici que l'abondance de pluie puisse faire monter le niveau d'eau et les villages sont ainsi engloutis. Mais cette fois-ci, c'est quand même une situation exceptionnelle parce que ça a pris une ampleur assez une ampleur désastreuse parce que il y a des villages entiers qui sont engloutis, les villages comme Yambassi, comme a dit le collègue de l'Okapi, José de Chapemenga, les villages comme Yambassi, Afunga, Ilondo, que nous avons visité personnellement, sont complètement dans l'eau, et vous voyez vraiment des familles entières qui vivent sur des pirogues. D'autres ont construit des étalages en pilotis de fortune. Et nous avons même appris qu'il y a des enfants qui sont tombés au village des Ambassiers à partir du pilotis là-bas jusque dans l'eau. Heureusement, les parents sont des bons nageurs, ils ont pu récupérer les enfants avant que le pire ne puisse arriver.
Oui, mais ça veut dire aussi que les maisons ne sont pas construites en matériaux durables. Est-ce qu'à votre niveau, vous comptez les aider de façon à ce que cela ne se répète plus? Parce que, bon, les pluies continuent quand même à tomber, alors on risque de croire que dans les jours à venir, il y aura encore d'autres cas à signaler. C'est ça le problème.
Oui, en tout cas, une solution définitive à cette question n'est pas envisageable à court terme, parce que nous avons discuté aussi avec les populations. Ils semblent ne pas être très pressés pour quitter les terroirs, parce qu'ils sont attachés à la culture et au sol et tout ça. Il y a des conditions qui font qu'eux, ils puissent pas partir de là où ils sont. Et puis, il faut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de terres fermes pendant cette période dans ces villages-là, hein, parce qu'il y a l'eau qui vient de derrière, c'est-à-dire tous les petits ruisseaux qui environnent le village. Par derrière, ça fait monter les eaux. Il y a aussi les fleuves qui les barrent de l'autre côté. Ils sont un peu pris en étau dans cette situation-là.
Alors, il devrait construire quel type de maison, finalement, en fin de compte, des maisons en pilotis
Oui, il y a ça, mais ça, c'est pas durable. Ça, c'est pas une solution durable. Moi, je crois qu'il faut une délocalisation et qu'il
Carrément,
soit
hein.
étudié avec les autorités et négocié, parce qu'il y a cette histoire de coutume, les attaches à leur terre qui doit être réglée aussi.
Jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore eu de soutien du côté gouvernemental. Est-ce que vous avez eu à entrer en contact avec ne fût-ce qu'un représentant du gouvernement pour aborder cette question?
Tout à fait. Disons que c'est l'autorité d'ailleurs qui a alerté la communauté humanitaire, plus les ONG qui sont basées localement à Isangi, à Bassoko. Et l'autorité a réagi, il a fait le plaidoyer auprès des humanitaires. Et je crois que le premier geste que le gouverneur, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a posé, c'était de prendre en charge la location de la baleinière qui a amené la première aide d'urgence que nous avons amenée. À part ça, je crois que le gros doit être attendu encore jusqu'à présent, parce que la question n'est pas à négliger. Les effets sont là, les gens dorment à la belle étoile. Et puis, le plus difficile, le risque d'arriver après, avec les épidémies, l'insalubrité des eaux et tout ça, c'est ce qui peut arriver dans les prochains jours.
Mais tout à l'heure, José de Sartemengua nous a confirmé que du côté de Kinshasa, il n'y a pas eu encore d'intervention. Il n'y a que les humanitaires qui réagissent jusque-là. C'est ça aussi qui étonne, hein?
Oui, c'est tout à fait, mais en tout cas, le plaidoyer est allé jusque-là. Nous attendons la réaction du gouvernement par rapport à cette situation, parce que c'est quand même, comme a dit Deschamps, une frange de la population qui n'est pas négligeable. Ça fait partie de notre pays, ça fait partie de notre population. Donc, ils ont droit aussi à l'attention de la communauté nationale, d'abord les humanitaires, ensuite.
Plus de 24 plus de 24 000 plutôt personnes qui sont totalement démunies aujourd'hui, abandonnées et qui vivent dans des pirogues et des maisons sur pilotis. Nous sommes là du côté des territoires de Isangi et de Bassoko. Nous apprenons par rapport toujours à ce problème que des hectares de champs sont dévastés par les eaux. Alors est-ce qu'au niveau de FAO, vous comptez aider ces personnes à recommencer leur vie à zéro?
Oui, tout à fait. Hein. Ça, c'était la partie de la mission qui a été notre charge, hein, justement, parce que la FAO s'occupe de la sécurité alimentaire, plus précisément de tout ce qu'il y a comme questions liées à la production vivrière. Nous avons essayé, avec l'aide des inspections territoriales de l'agriculture qui sont sur place, et essayer d'évaluer le nombre d'hectares qui sont ravagés par les eaux. Et nous avons trouvé que nous sommes autour de 275 hectares qui sont engloutis totalement, parce que les gens ont l'habitude de cultiver dans les îles et les îlots, et tous ces îlots sont engloutis pour le moment. Donc ça fait un grand manque à gagner, et dans les prochains jours, nous craignons que les denrées alimentaires puissent être rares
Déjà,
et coûter très cher,
ça
ce qui va être un
coûte
peu
cher. Mais on peut vraiment me dire
mauvais
ce
pour
que
le
ces
futur.
gens-là cultivaient exactement, parce que bon, beaucoup ne connaissent pas très bien ces territoires. Qu'est-ce qu'ils avaient comme, je dirais, comme particularité dans leur champ? On peut avoir une idée là-dessus, comme culture?
Tout à fait, ce sont des champs de manioc dans la plupart des cas, des champs de manioc, de bananes. Il y a eu aussi des champs de maïs, il y a eu des champs de vignes. On fait déjà pas mal de vignes dans le territoire des Sangui surtout, et c'est ça surtout en principe, hein, ce qu'ils font à Bassoko, les bananiers aussi.
Voilà. Alors, demain, est-ce que ces gens peuvent à nouveau recommencer leur culture? Est-ce que c'est possible, sachant surtout que ces terres ont été inondées, est-ce que c'est possible en tant qu'expert de la FAO?
Oui, tout à fait. Les terres qui sont inondées, dans la plupart des cas, quand les eaux se retirent, ils laissent toujours une couche d'humus sur le sol qui est bénéfique pour les cultures ultérieures. Donc, nous avons reçu des assurances de la part des agriculteurs, comme quoi s'ils ont les semences, parce que là, ils ont perdu même les semences. Donc, s'ils ont les semences pour refaire leur champ, ils vont les faire sans problème. Et la FAO est en train d'étudier le moyen de leur venir en aide avec les intrants, principalement les semences et les outils aratoires.
Alors, pour terminer, Hakim Kibaya, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour parler au plus pressé, hein, parce que il y a encore danger, hein. S'il pleut à nouveau, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour parler au plus pressé, selon vous?
Bon, vous avez raison, parce que même la population sur place nous a dit que il reste encore une certaine montée à partir du 20-25. Donc, ce sera la dernière montée des eaux avant de se retirer. Donc, il y a pas mal de choses à craindre, c'est que nous avons essayé de dire à la population de faire attention avec les eaux des boissons. Et pour ça, je crois que la communauté humanitaire a disponibilisé des produits pour essayer de traiter l'eau. Et puis, de faire très attention avec les moustiques, parce que nous craignons des cas de palus. Et puis, le cas de diarrhée aussi, qui sont prévisibles dans les jours à venir.
Donc, il y en a déjà.
Nous avons essayé, oui, il y a même quelques cas déjà qu'on nous a signalé à Yambassi, qui est un des villages inondés. Donc, les gens doivent prendre des précautions par rapport à l'hygiène, à la salubrité. Et puis, évidemment, il faut une assistance humanitaire d'urgence. C'est-à-dire, il y a besoin de vivres frais et de non-vivres aussi. Par contre, les semences et les outils pourront suivre après quand les eaux se seront retirées pour qu'on puisse réinstaller les cultures comme est en train de préparer la FAO.
Alors juste, on termine avec quelques réactions des habitants de la RDC qui ont réagi. Nous avons par exemple la réaction de Alexis Litombo depuis Isiro en province orientale qui demande quelles sont les mesures prises pour ne pas enregistrer beaucoup d'épidémies. Vous venez de le dire. Depuis Kikwit, Jean Kinga nous dit Isangi se trouve dans la vallée ou dans une plaine pour être inondée, il aimerait le savoir. Et puis Philippe Maseka Kolozi nous dit depuis un certain temps, c'est soit des inondations, soit encore des érosions qui sont signalées dans certains coins du pays. Que fait exactement l'OVD pour lutter contre toutes ces calamités? La question ne s'adresse pas directement à vous. Hein. Alors je crois que vous êtes bien placé pour la deuxième question de Jean Kinga. Qu'est-ce que vous diriez à cet auditeur?
Oui, je répondrai surtout pour la deuxième question là qui parle de vallées, de plateaux, tout ça, des plaines. Mais nous avons eu de l'équipement nécessaire pour prendre un peu les altitudes des différents villages qui sont sinistrés par les inondations. Et ça aussi autour de 300 à 450 mètres d'altitude. Donc, vous pouvez vous imaginer ce que ça représente dans l'échelle de montagnes et tout ça. Donc, c'est pas tellement la plaine, ce n'est pas la colline, mais c'est une altitude très basse et que les eaux, quand ça... J'avais dit que la situation était cyclique, hein. Donc, il y a des moments où les eaux ne font pas autant de ravages. Mais cette année, en tout cas, il y a quand même un impact beaucoup plus important.
On retient une chose, Hakim Kibaya. L'idéal serait que tous ces territoires soient délocalisés carrément pour éviter encore qu'il y ait ce genre de problème, hein, à l'avenir. Ça, c'est à voir peut-être à long terme, hein.
Vous avez dit que c'est l'idéal et c'est à voir parce que ça doit mobiliser beaucoup de fonds, donc il faut que les pays se dotent des moyens nécessaires pour délocaliser, ça serait l'idéal. Oui.
Merci beaucoup Hakim Kibaya, assistant logistique au chef de bureau de FAO Kisangani et point focal de la délégation, d'avoir répondu à nos questions. On espère vous retrouver prochainement pour voir comment les choses ont évolué, hein, avec les différentes assistances humanitaires qui viendront apporter peut-être un plus à ces habitants, hein, de Isangi et de Basoko. Merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.